On va continuer avec notre cours masculinité et féminité selon Dieu. La semaine passée, on a vu quoi? Dans un contexte célibataire. Donc, aujourd'hui, dans notre cours, c'est le gros 6 aujourd'hui. Vivre sa masculinité et sa féminité à l'Église, dans l'Église. Comment on le vit ici? À l'Église, en Église, surtout réunis. Ce que nous avons vu au sujet des hommes et des femmes en général jusqu'à aujourd'hui. Dans Genèse 1, on dit que l'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu. Ça, l'homme et la femme sont égaux en valeur, dignité et importance. Dans Genèse 2, selon Genèse 2 aussi, Dieu a donné aux hommes autorité et responsabilité pour diriger, pourvoir aux besoins et protéger. C'est un résumé. OK, mais Dieu a donné quoi? Autorité dans l'Église, pour dans le foyer aussi, et responsabilité aussi. Pour diriger, pourvoir aux besoins et protéger aussi. Ces aspects-là, c'est important qu'on puisse retenir. Dieu créa la femme pour donner une aide volontaire aux hommes des valeurs et nourrir, cultiver, encourager la vie spirituelle dans d'autres. Ça, c'est au niveau de la femme. Et dans les deux cas, hommes et femmes exercent ces rôles de diverses façons selon les relations qu'ils entretiennent avec les autres, c'est-à-dire... Ça peut être des femmes mariées, célibataires, comme on a vu la semaine passée aussi. Des femmes seules, des hommes seuls qui habitent seuls. Donc, c'est pour ça qu'on fait emphase à ça. Et dans les deux cas, selon les relations qui entretiennent entre eux. Ça, c'est par rapport à principe général qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Hommes et femmes dans l'Église maintenant. L'Écriture s'attend à ce que les hommes et les femmes participent à la grande majorité des ministères et services dans l'Église. OK? L'Écriture nous exhorte à qu'on puisse... être dans le travail, dans le ministère ici à l'Église, dans la grande majorité. Lisons 1 Corinthiens 12, 4 à 11 et 18 à 20. On va le lire. Okay. 1 Corinthiens 12, du verset 4 à 11, puis on va sauter jusqu'au 18-20 parce qu'on ne lira pas tout. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit... est donné pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit des paroles et des sagesses, à un autre une parole des connaissances selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons des guérisons par le même esprit, à un autre d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement d'esprit, à un autre les diversités des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est bon? Ça vient de Dieu, ça. C'est comme il veut. L'esprit. Mais Dieu même aussi. Allons dans le 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Encore une fois, cet aspect-là, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. C'est un passage que vous connaissez très bien, OK, mais ça vaut la peine de nous rappeler de ce que la parole dit dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11 et 18 à 20. Et c'est ce que j'aime dans le français, la langue française, que le mot « corps » finit par un « s », c'est particulier quand même. On dirait en pluriel, mais c'est un seul corps. Mais ils finissent par un « s », on ne le prononce pas. Mais ça m'aide aussi pour voir que le corps, dans l'Église, à l'Église, on est un corps, mais plusieurs membres. Donc, c'est pour ça le S, pour moi, c'est plusieurs membres. C'est un pluriel, mais c'est un mot singulier. Mais le corps, c'est ça, le corps à l'Église. On est tous partis d'un même corps. Qu'apprenons-nous de ce verset? Variété de dons à son Église, et ils ne sont pas répartis sur la base des genres, c'est-à-dire féminin et masculin. Dieu opère en tous, femmes et hommes. Dieu opère en tous, travaille en tous. Le verset 6. Tous dotés par Dieu est censé d'utiliser leurs dons pour le bien commun de toute l'Église, pour le bien commun, tous, nous tous, hommes et femmes confondus, pour le bien commun qui est l'Église. Verset 7. Dans l'ensemble, les hommes sont édifiés par les femmes et les femmes sont édifiées par les hommes. Du verset 8 à 11, nous avons lu là, on est tous édifiés, les hommes par les femmes et les femmes par les hommes. À cause de nos ministères. Dieu a rangé les membres dans un seul corps, chacun d'eux comme il a choisi. Et je veux faire en face parce qu'il a choisi. 18 à 20, on l'a répété plusieurs fois, il a choisi, comme il a voulu. C'est la volonté de Dieu, qu'on soit réunis tous, puis que ce soit un homme et une femme, puis c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a donné les ministères, c'est lui qui nous permet de servir selon ce que la parole dit de Dieu par rapport au ministère. Parce qu'on va voir quand même quelques différences au niveau des ministères de l'homme et de la femme à l'Église même. Et tout ça découle de l'autorité de l'homme qu'on a parlé, qu'on vient de parler depuis quelques semaines. Et ça se reflète aussi à l'Église. Cela signifie que personne n'est sans importance ou n'est pas pertinent pour la vie de l'Église. Donc, en ce qui concerne les hommes et les femmes, les rôles qu'ils exercent, nous devons toujours nous rappeler que Dieu a quoi? Conçu le corps comme il le veut. Cela devrait nous aider à garder nos cœurs contre la fierté, l'insécurité et le mécontentement. Parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est bon? On est femmes dans l'Église. Les hommes et les femmes sont appelés, j'aimerais qu'on puisse, un peu comme on a fait un énoncé pour la féminité, la masculinité, on veut peut-être aujourd'hui à sortir avec cet énoncé-là. Les hommes et les femmes sont appelés à servir dans l'Église en toute leur capacité, ok? Sauf si un tel service enfreint le principe biblique du leadership masculin, en particulier en enseignement ou en exerçant l'autorité sur les hommes lorsque l'Église est rassemblée. Et je dirais plutôt en toute l'Église. Mais c'est ce qu'on veut retenir ce matin. C'est bon? Donc, hommes et femmes encore à l'Église, nous examinerons diverses manières pratiques dans lesquelles les femmes et les hommes servent à l'Église. Il y en a plusieurs manières pratiques qu'on peut servir. Il y a plusieurs services, il y a plusieurs ministères. Si vous voulez confirmer, sortez ici dehors, là, et vous allez voir des pamphlets. Vous avez vu les pamphlets? Ça tombe bien, hein, parler de ça, parce qu'il y a 2 semaines, on a eu notre... semaine de kiosque, ok? Puis vous avez vu, il y a 9 départements, et puis on peut choisir, on peut servir, il y a plusieurs domaines là, on peut tous servir, pas juste hommes, pas juste les femmes, tous. On est bénis par ça, on peut participer. Donc, participer au rassemblement, je suis en train de nommer quelques manières pratiques où on peut servir, on peut participer comme église. Participer au rassemblement public. Le moment le plus important à l'Église, là, mes frères et sœurs, c'est quand on se rassemble autour, tous unis, en communion, autour de la parole de Dieu aussi. Ensemble, nous entendons la parole de Dieu lire, chanter, prier, prêcher, tous ensemble. En tant que corps, nous faisons quelque chose que le monde ne peut pas expliquer. Okay? C'est quelque chose, c'est un privilège pour nous de pouvoir être rassemblés comme Église, de pouvoir servir. Des personnes appartenant à plusieurs, et ce que j'aime de notre Église, heureusement, plusieurs ethniques, plusieurs nationalités, plusieurs langues même. On est tous ensemble. C'est un privilège d'être ici à l'église ensemble et servir à Dieu. Les anciens seuls ne peuvent pas faire cela. Les prédicateurs seuls ne peuvent pas faire cela. Ok? Et les hommes ou les femmes seuls ne peuvent pas faire cela. Les hommes ou les femmes rachetés, toutes les races, toutes les langues, ensemble, ils peuvent faire ça. Ok? Servir tous ensemble et participer au rassemblement public, à notre assemblée, à nos réunions, et c'est que ce soit aujourd'hui, la plus grosse réunion qu'on a, mais aussi ça peut être les églises des quartiers qu'on se réunit les mercredis. Quand vous attendez un rassemblement public ou notre assemblée, notre rassemblement, qu'est-ce que vous aviez en tête aussi? Quelle participation on peut avoir? S'encourager, là. Vous connaissez très bien le petit pamphlet lu là, okay, les uns les autres. Donc il y en a plusieurs versets qu'on peut mettre en pratique ça. Un deuxième aspect, ça peut être voter dans la congrégation, dans l'assemblée, voter. Et on est privilégié, nous, de pouvoir avoir des réunions d'affaires, ok? Au moins 2 fois par année. Là, on peut participer un peu, participer à la vie de l'Église. C'est pas les anciens seuls qui dirigent l'Église, c'est toute l'assemblée. C'est toute l'assemblée qui prend les décisions là, pour la direction de l'Église. Et c'est un privilège pour chaque personne, chaque membre de cette Église-là, de pouvoir le faire. Et tant les femmes et les hommes peuvent voter, en étant membres, nous avons le droit tous de voter. Et je pense aussi la responsabilité de voter, de manifester notre avis. C'est bon? Donc, ça, dans cet aspect-là aussi. Servir des diacres. Dans les services comme diacres, on est rendu là. Croyons qu'il y a 2 ministères dans l'Église, les anciens et les diacres. Et nous croyons que le Nouveau Testament est réservé le ministère d'anciens juste pour les hommes. Mais nous croyons pas que ce soit pour les diacres. D'ailleurs, on voit dans Timothée 3:11, vous pouvez voir l'aspect qui parle des diacres, mais aussi les femmes diaconesses qu'on peut parler pour les services. C'est permis aux femmes à pouvoir servir comme diaconesses. Donc, dans 1 Timothée 3:11, selon Acte 16 aussi, on voit l'aspect pratique des diacres. Dans acte 6, quand les diacres sont nommés à l'Église, et sous la direction des anciens de l'Église. pour ne pas penser que c'est un rôle moindre le fait d'être nommé serviteur. Même le Christ lui-même s'est appelé comme serviteur. Il est venu servir, nous servir à l'Église. Il y a un autre aspect aussi, la lecture, prière et prophétie. Lecture, prière et prophétie. Le culte du dimanche, la lecture des paroles peut se faire. Et que ce soit les hommes ou les femmes, ils peuvent le faire. Ils peuvent lire la parole de Dieu. C'est un privilège qui permet aux hommes et aux femmes. Par contre, il y a des femmes qui se sentent un peu, des fois, mal à l'aise de pouvoir le faire. Mais s'il s'agit juste de lire la parole de Dieu, il n'y a pas un enseignement. Il n'y a pas un enseignement en autorité que la femme est en train de faire. Mais il y en a qui s'abstiennent de faire. Dans 1 Corinthiens 4, 11, 4 à 5, dit « Tout homme qui prie ou prophétie avec la tête couverte déshonore sa femme. Mais toute femme qui prie ou prophétise, là on est en train de toute femme et tout homme, donc les femmes et les hommes, qui prie ou qui prophétise avec sa tête découverte, déshonore sa tête, l'autorité. Dans le cadre de l'enseignement, implique expliquer et d'appliquer le texte, ok? Dans le cadre de l'enseignement de la parole. Et pas juste de le lire. Dans le cadre de l'enseignement, il y a une autorité, expliquer le texte, exhorter à obéir même le texte. Donc, tout homme toute femme est appelée à prier, à prophétiser. C'est bon? Vous n'avez pas de questions là-dessus? Oui, je pense qu'il y a une question qui se soulève. Hein? La prophétie, hein? Mais il y a plusieurs l'Église qui pratique ça, le don de prophétie, puis... Nous, on le voit, c'est que dans le Nouveau Testament, veut dire ça dans cet aspect-là, et ça ne veut pas dire prédire le futur, ok, comme dans l'Ancien Testament, les prophètes. C'est plutôt révélateur, c'est-à-dire qui rappelle des vérités bibliques. Ça on appelle dans nos contextes d'Église, c'est prophétiser, ok, dire des vérités bibliques. Et ça peut être lire la parole de Dieu aussi, ok, à voix haute. Dans le contexte aussi, ça peut être des témoignages, des baptêmes aussi. Vous avez entendu des fois que les gens lisent le témoignage. Ça peut être aussi un témoignage de fidélité aussi, le fait de prophétiser. Est-ce que c'est bon? Donc ça c'est la lecture, la prière qui est dans l'Église. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut servir là-dessus. Dans un ministère, un département des prières, il y en a plusieurs postes à combler dans ce département-là des prières. Un cinquième aspect, c'est enseigner et diriger d'autres femmes. Parce que les hommes aussi enseignent, les femmes aussi enseignent d'autres femmes. Les hommes sont appelés par Dieu à enseigner la congrégation rassemblée, mais cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas enseigner. Quand on parle d'enseigner, les hommes enseignent, c'est avec l'autorité de l'homme, et selon son leadership à l'Église, qu'on va voir ça tantôt. Okay? Dans Tite 2, 3, 5, Paul exhorte les femmes âgées à pouvoir donner des bonnes instructions, okay? Afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être sensés, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises chacun à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, dit. Paul ne dit pas simplement un modèle, ok? Il dit enseigner. Et les femmes peuvent enseigner ça. Et on le voit aussi dans la vie de Timothée aussi. Et cela est vrai aussi pour les femmes célibataires. Paul parle aussi aux femmes célibataires. Ça, c'est dans l'aspect d'enseigner, diriger à d'autres femmes. D'autres domaines, ça peut être aussi les ministères auprès des enfants. On voit qu'il y a beaucoup de femmes impliquées dans ces ministères-là, mais il y a des hommes aussi qui sont impliqués dans ces ministères pour les enfants. Considérons l'exhortation de Paul qui dit « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui soit l'objet des foi. Tu sais qu'est-ce que tu as appris depuis ton enfance. Tu connais les Écritures sacrées. Ils peuvent te donner sagesse en vue du salut. » Timothée a été enseigné par qui? Vous vous rappelez de ça? Par sa grand-mère Louise et sa mère Eunice, qui enseignait la parole, depuis son tendre enfance. Donc, le ministère auprès des enfants. Et on est béni ici dans cette église aussi parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués. Quand je dis les dimanches, des fois, je dis les enfants vont descendre pour leur temps. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui descendent aussi. Il y a beaucoup d'espace vide à cause des frères et sœurs qui sont impliqués dans l'enseignement aux enfants. Donc on voit tous ces ministères et d'autres ministères encore, innombrables d'autres ministères, l'évangélisation, les missions, les ministères des malades et des personnes âgées, etc. Il y en a plusieurs ministères et plusieurs domaines que nous tous ensemble, femmes et hommes, peuvent servir. Je ne sais pas si ça m'échappe un aspect, mais... Il y en a plusieurs ministères où là on peut servir, hommes et femmes. Les hommes et les femmes sont appelés à servir à l'Église dans tous les domaines. Là, on a, avec toutes leurs capacités, c'est-à-dire avec toutes leurs capacités, sauf si un tel service enfreint le principe biblique du leadership masculin. Donc, ce leadership masculin à l'Église se reflète par l'autorité déléguée à l'homme dans ses ministères, surtout le ministère d'ancien et le ministère dans l'enseignement aussi. Voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces aspects-là, d'autorité aussi. Donc, voyons, le ministère d'ancien, Dieu appelle seulement les hommes à ministère. On voit que dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, Dieu appelle seulement les hommes à ce ministère-là, d'ancien. La description du travail d'ancien, aussi, on voit dans l'Écriture. L'apôtre Paul donne les qualifications pour être un ancien, également appelé évêque ou pasteur dans le Nouveau Testament. Il utilise des termes masculins. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire quoi? Une belle activité. C'est réservé aux hommes, le ministère d'ancien, la direction à l'Église, dans 1 Timothée 3, 1. Dans le Nouveau Testament, ceux qui remplissent le rôle de diriger l'Église comme ancien, en travaillant dans la prédication et l'enseignement. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire tantôt. C'est en travaillant dans la prédication et l'enseignement. Il y a la référence en 1 Timothée 5, 17. Donc, la prédication et l'enseignement sont réservés aux hommes. Est-ce que ça va jusqu'à date? Dans le ministère d'anciens, 1 Timothée 3, 2 à 7, l'apôtre Paul poursuit. Donc, si vous voulez, on peut aller vite lire ça, tout ce que la Bible parle au niveau du ministère d'anciens. Et c'est important, en fait, c'est important ce verset-là, ce passage-là, 1 Timothée 3, 2 à 7. L'apôtre Paul poursuit comme ça. Il faut donc qu'il soit irréprochable, ça il est en train de parler de l'ancien, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, il y a l'enseignement toujours là, qui ne soit adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison et qui tient ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et là, vous voyez, c'est fort, ça. Prendre soin de l'Église de Dieu. OK? Être en autorité sur l'Église de Dieu, avec ce qu'il travaille, là. Et qu'il ne soit pas nouveau converti. Qu'il ne soit pas un nouveau converti. De peur qu'il s'enfle d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ce du dehors, afin de ne pas tomber dans les discrédits et dans les pièges du diable. Mais on voit tout le temps la parole de Dieu, puis là, on voit qu'on apprend des choses. On apprend qu'est-ce que la parole de Dieu parle au niveau des anciens, au niveau de son autorité, au niveau de l'enseignement aussi, au niveau du rôle. C'est clair, je pense, pour nous tous, ce que la parole de Dieu dit par rapport aux anciens. Considérons les choses que Dieu appelle à faire. Aux anciens à faire, pourvoir à l'Église par l'enseignement biblique, ok? Pourvoir à l'Église par l'enseignement biblique. Tite 1, 9 dit que l'ancien doit être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Ça, c'est Tite 1, 9. L'appel à Timothée aussi était le suivant, « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Timothée, qui était responsable d'une église, Éphésiens 4, 11 à 12, dit que Jésus donne comme pasteur et docteur à son église pour l'enseignement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service de l'édification du corps du Christ. Ça, c'est un aspect de ce que l'ancien est appelé à faire au niveau de l'église. L'ancien pourvoit, OK, à l'église de l'enseignement biblique. C'est bon? Un autre aspect, on peut voir aussi, protéger, ok, l'ancien protège l'Église du mensonge. Ok, Paul prévient, le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter la vérité, véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir. S'entourant d'une foule des maîtres, ils leur diront qu'est-ce qu'ils aiment entendre. On voit ça dans 2 Timothée 4, 3. Est-ce que les versets sont là? Oui, les versets sont là. 4, 2 à 3. Qu'est-ce que l'ancien doit faire aussi dans 2 Timothée 4, 2? Convainc, reprend, exhorte, et dans Tite 9, exhorte selon la saine doctrine et de convaincre le contradicteur. Donc, c'est tout un ministère au niveau des anciens. OK? Protège l'Église du mensonge. Encore un autre aspect. Diriger l'Église par leur exemple. Ça, c'est tout un ministère aussi. Diriger l'Église par leur exemple. OK? C'est comme mon frère dit, son jeu des mots, être un ancien modèle, c'est ça? Un ancien modèle. Il faut être des modèles, OK? Il faut être des bons témoignages auprès de l'Église. Et les anciens dirigent l'Église par leur exemple. 1 Pierre 5:3. Et c'est un verset que j'ai appris dès ma conversion. C'est drôle. Depuis ma conversion, un des premiers versets que j'ai appris un peu par cœur, c'était celle-là. Là. Puis 1 Pierre 5:3. Et ça m'a toujours, depuis que je suis converti, ça m'a toujours rappeler ça, il dit, waouh, c'est important l'exemple pour quelqu'un qui dirige l'Église, qui est appelé à diriger l'Église. Et Pierre, il dit aux anciens, ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, ceux qui ont été confiés à votre garde. Mais soyez des modèles pour les troupeaux. Soyez des modèles pour les troupeaux. Et si vous lisez 1 Pierre 5, 2 à 5, là, vous allez voir ce verset-là au complet de ce qui est demandé pour les anciens. Hébreux, l'Épître aux Hébreux 13, 7 dit, souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu, pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Imitez leur foi. Qu'est-ce qu'on imite? On imite leur foi de quelqu'un qui a eu un bon exemple, un bon témoignage. C'est ça? Imitez leur foi. Ça, c'est un troisième aspect. Un quatrième aspect, assumer la responsabilité devant Dieu pour le bien-être de l'Église. Okay? Assumer la responsabilité. Les anciens ont la responsabilité devant Dieu pour le bien-être de l'Église. Nous savons en Jacques, nous voyons dans Jacques 3:1 que les enseignants recevront un jugement plus strict. Ceux qui enseignent, ils vont recevoir un jugement plus strict. Et comme dit dans Hébreux 13:17 aussi, nous devons nous soumettre aux anciens de l'Église pour qu'ils surveillent nos âmes. Comme ceux qui devront rendre compte. On va rendre compte à cause des âmes qu'on a et à garder en responsabilité. Donc, ces quatre aspects, c'est important. C'est très important, ces quatre aspects pour les anciens. Pouvoir, protéger, diriger et assumer la responsabilité. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est vraiment le modèle de leadership de l'homme, là. Vous vous rappelez l'énoncé qu'on a appris au début? Le faire de protéger. OK, quand l'homme était Dieu a donné le mandat à l'homme, OK, vers la femme, protéger, on voit ces aspects-là, et pouvoir, diriger, OK, diriger, responsabilité, autorité, et regarder les choses auxquelles les anciens sont appelés pour faire, pouvoir, protéger, diriger, assumer leur responsabilité. C'est le modèle qui rappelle la définition d'une masculinité biblique, là. Les hommes sont appelés à pourvoir aux autres et les protéger, en particulier leur famille, mais aussi leurs sœurs en Christ dans l'Église. C'est bon? C'est la description. Oui, et je vous dis, en étant ancien, c'est une grosse responsabilité, mes frères et sœurs, de pouvoir avoir à cœur ce ministère-là. Vous connaissez tous mon cas. Daniel a laissé le Seigneur, mais Daniel est un jeune homme de 20 ans. C'est un homme responsable. Je ne veux pas l'obliger à être un chrétien. Et puis, mon fils a quitté la maison aussi. Il n'est plus sous mon autorité. Et je prie à tous les jours pour lui, pour que Dieu puisse l'appeler encore. Mais c'est sûr, c'est un homme qui prend ses décisions. Mais il faut aussi discerner le fait, quand c'est des jeunes enfants, il faut les tenir... Il faut bien gérer votre foyer, notre foyer. Et c'est là, nous avons l'autorité sur nos enfants. Et nous devons corriger ce qui n'est pas bon. On est appelé à ça. Et c'est ça. Même si vous voyez qu'il y a un enfant, je pense, qu'un enfant qui est rebelle, mais si vous faites votre travail comme père de famille, okay, en l'exhortant, en l'encadrant, je pense que cet homme-là qualifie, okay, dans son leadership comme père. Okay. Par contre, s'il laisse faire son enfant, puis il n'y a aucune réaction à ça, oui, là, je pense qu'il échoue à son rôle de père. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'autre. Vous voyez que l'image biblique du leadership des anciens est la masculinité au cœur. La masculinité, c'est un leadership masculin. Ce n'est pas un machisme mondain. Ce que j'aime de l'étude là, qu'on a fait, ce n'est pas un machisme mondain pour le plaisir ou le gain personnel. Ça, en Pierre, ça parle de ça. C'est une disposition volontaire pour servir et protéger l'épouse et Christ. Okay? C'est une disposition volontaire. Comme cela est volontaire de la part de l'homme, ça doit être aussi volontaire de la part de la femme à pouvoir exercer le rôle qu'il y a, que Dieu a donné, que Dieu a donné à l'Église. Donc, cet homme est bienveillant envers les brebis de Dieu. Il faut être humble et bienveillant, comme tu disais, mon frère, vers les brebis de Dieu. Au niveau de l'aspect de l'enseignement, ok? 1 Timothée 2, 8 à 14. Le contexte, le fond enseignement en Éphèse et un appel à s'instruire en silence. Qu'elles s'instruisent en silence avec une entière soumission. Il parle aux femmes. On va lire dans 1 Timothée 8, 2, 8 à 14. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, et modestie. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et de modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de foi servir. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière, quoi, soumission, et je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Yeah, yeah. C'est un verset assez quand même fort pour les femmes, j'en conviens. Mais si on voit l'arrière-plan dans cette église-là, quand Timothée reçoit cette lettre-là, l'église est attaquée pour des faux enseignements au niveau de l'autorité de l'homme vers les églises. Puis il y a beaucoup de problèmes au niveau des femmes, de l'enseignement, la femme qui se révèle un peu à l'homme et de vivre une façon de plus indépendante par rapport à l'homme, et une femme plus libérée. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit cette exhortation pour lutter contre cet enseignement. Paul commence par encourager les femmes à s'habiller modestement. Et dans le monde antique, la robe flamboyante signalait souvent le désir de la femme d'être indépendante, l'autorité des hommes, dans ce contexte-là, en particulier de son mari. En fait, c'est un appel à la pureté. Il dit que les femmes devraient attirer l'attention sur elles-mêmes et non sur leur apparence, okay? Mais par leur façon de vivre. C'est ce que Paul est en train d'exhorter aux femmes. Là. Il exhorte à qu'ils reçoivent l'instruction en silence avec une entière soumission. En silence, ça veut dire quoi? Que la femme ne peut pas parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez quand il dit avec une entière soumission l'instruction en silence? Être à l'écoute, oui, ok, être à l'écoute, oui. L'attitude, c'est une question d'attitude, là. Okay? L'attitude du cœur de la femme, okay? La posture soumise à l'enseignement biblique, une posture soumise. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas droit de dire Amen, Alléluia, ou que quand le prédicateur est en train de prêcher, non. Et c'est plutôt une attitude du cœur, là, okay? Et poser des questions. Et cela signifie que l'attitude par défaut devrait être accepter la parole de Dieu. Par défaut, l'attitude doit être accepter la parole de Dieu avec soumission. Deux instructions, 1 Timothée 2, 8. Enseigner formellement aux hommes, okay, et avoir autorité sur les hommes. Okay? C'est ça que Paul est en train de dire, les deux restrictions. Okay? Ne sont pas autorisés à enseigner les hommes, dit Paul. Je ne permets pas à une femme d'enseigner. Okay? Et il ne présente pas, par exemple, comme une option possible. Okay? Ce n'est pas comme une option. C'est vraiment, il dit cela, il devrait être la norme. La femme ne doit pas enseigner à l'homme. Le mot enseigner est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire la communication autorisée, okay, des vérités avec une attitude d'exhortation et d'obéir à la parole de Dieu. Okay? Et cet enseignement est exercé par les anciens qu'on vient de lire dans le chapitre 3 de 1 Timothée. Est-ce que cela interdit que les femmes puissent enseigner à l'Église? On le voit ici dans notre Église. Les femmes peuvent enseigner aux autres femmes, peuvent enseigner aux enfants. Il y a tellement de ministères pour les enfants, ok? Mais pas dans les cas de ici. On ne fait pas ça. Une femme enseigne à l'école du dimanche quand c'est un groupe mixte. Il y a des cas, comme là maintenant, présentement, il y a encore des femmes en bas, mais c'est que des femmes et des jeunes. OK? Puis la femme enseigne. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas enseigner au niveau de l'Église. OK? C'est juste par rapport à l'autorité de l'homme à l'enseignement. Quand l'homme enseigne, il prêche. Donc, c'est par rapport à ça, ces restrictions-là. La deuxième restriction, c'est que ne pas avoir autorité sur un homme. Avoir autorité sur un homme signifie avoir le contraire sur un autre dans le sens de gouverner, OK? De gouverner sur l'homme, avoir l'autorité sur lui. La fonction vraiment de diriger, OK? C'est attribué aux anciens, appelé à être pasteur, aux surveillants. C'est dans cet aspect-là d'avoir l'autorité sur l'homme. Et pourquoi ces raisons-là? Pourquoi ces deux restrictions? En Timothée encore, deux raisons de ces restrictions, l'ordre de la création, OK, dans le verset 13, et les stratégies de Satan pour zapper l'ordre de la création, pour changer l'ordre de l'autorité de la création. On l'a vu plusieurs fois dans les autres études, pourquoi l'ordre de la création, Dieu a créé, Adam a été formé le premier, puis après Ève. On le voit dans l'ordre de la création. Dieu a fait l'homme et la femme dans un certain ordre de communiquer une vérité. Okay? L'intention est de guider, de protéger. Okay? C'est ça l'intention de Dieu en créant l'homme en premier, de pouvoir diriger, protéger la femme. Adam a été trompé, mais la femme a été trompée avant lui. Là, et devenue transgresseur. Mais Paul ne dit pas que les femmes sont plus crédules, c'est-à-dire qu'elles se laissent plus influencer que les hommes. Les hommes aussi peuvent être trompés. Mais ce que Paul dit, Adam a été trompé, n'a pas été trompé, il observe qu'Adam n'est pas celui qui le serpent a tenté. Vous voyez que Satan a voulu inverser l'ordre de l'autorité. Il est allé chercher avant Ève, quand c'est Adam qui devait prendre les décisions. Mais Satan a voulu inverser ça. Puis il l'a fait, en fait. OK? Puis Ève est tombée. Ève est tombée, malheureusement. Puis le péché est entré. Mais c'est ça à cause de ces deux restrictions. OK? C'est les deux raisons pourquoi. Mais regardons aussi dans 1 Corinthiens. Dieu s'attend à que les hommes et les femmes servent publiquement à l'Église, priant et prophétisant. L'aspect des prophétiser, on l'a vu déjà. OK? On revient sur cet aspect-là. Et priant aussi, du vu que les femmes servent dans l'Église de manière qu'elles reflètent clairement leur identité féminine. OK, dans versets 7 à 10 et 14-15 de 1 Corinthiens 3-16. L'autorité de l'enseignement de l'homme dans l'Église n'invalide pas l'égalité et l'interdépendance. OK? Et là, on voit aussi l'aspect du voile, qu'on a touché tantôt cet aspect-là. Mais en fait, Paul est en train de prendre un exemple de la société pour expliquer vraiment la soumission de la femme. C'est ça le but d'expliquer le fait du voile. Ça ne veut pas dire, parce qu'il dit après de pouvoir, jugez-vous par vous-même si la femme doit porter ce voile-là. C'est plutôt un signe de l'autorité de l'homme sur la femme. Donc, l'autorité de l'enseignement de l'homme dans l'Église n'invalide pas l'égalité et l'interdépendance entre les deux. Okay? Ces trois aspects, c'est important. On aurait pu lire tout le verset des 3 à 16, mais je vous invite à pouvoir les lire. 1 Corinthiens 11, du 3 à 16. J'aimerais juste ces deux versets-là, 11 et 12. Là. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. OK? Donc, mes frères et sœurs, Soyons conscients que tout vient de Dieu. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme sur la femme et à l'Église aussi vient de Dieu. Ok? Le ministère que Dieu permet à l'Église vient de Dieu. Ok? Je sais que je suis un homme pour exhorter les femmes là, je pense qu'en bas. Les femmes sont en train d'exhorter aussi les femmes, pas d'encourager les femmes à pouvoir se soumettre à ce que Dieu a donné comme rôle à la femme. OK? Puis la parole de Dieu, on n'est pas moins à cause de ça, là. C'est juste une question des rôles que Dieu a donné. Comme on voit dans la Trinité, Dieu le Fils, le Père et le Saint-Esprit. OK? Dieu s'est soumis. Jésus s'est soumis au Père. Wow, c'est un bel exemple, ça, de soumission. Il s'est soumis au Père. Et on voit l'aspect du serviteur aussi. Jésus est venu comme serviteur et s'est humilié. C'est humilié pour nous. Okay? Je pense qu'on va avoir en tête toujours ça pour pouvoir comprendre vraiment quel est notre rôle comme femme et comme homme à l'Église. Et Dieu nous donne, avec son esprit, le discernement de pouvoir bien exercer ce ministère. Et on est béni dans notre Église locale de pouvoir avoir quand même cet enseignement. Et c'est important d'avoir cet enseignement à l'Église. Parce que malheureusement, comme on a parlé tantôt, il y a des nouveaux enseignements qui sortent à cause de notre société aussi, le féminisme et tout ça, qui est très fort. Okay? Puis ça s'émet aussi, l'enseignement à l'Église, et on le voit dans d'autres églises, que cette idéologie rentre aussi dans l'Église. Puis eux, ils essayent d'adapter la parole de Dieu à ce courant-là, tandis qu'on doit s'adapter, nous, à la parole de Dieu, non adapter la parole de Dieu à nous. Donc cet aspect, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, il faut être aux aguets, il faut être vraiment surveillant à tout ce qu'on entend, ok? À tout ce qu'on entend. L'Internet est très bon, ok? Mais si vous voulez aller chercher un principe biblique ou un enseignement biblique, à l'Internet, faites attention, ok? Parce qu'il y a de tout. Allez lire votre Bible. Et puis, là se trouve tout l'enseignement biblique, ok? Et si vous voulez aller sur Internet, renseignez-vous de qui vous êtes en train d'écouter ou de lire la documentation. C'est bien? Donc, je vais me finir avec un dernier verset. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-les au service des autres. En bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, quoi? Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Donc, prions, frères et sœurs, et on va...